dans la bouche de Virgile s'adressant à l'un des lépreux de l'enfer cette phrase ardente. « Oh, toi qui te démailles avec les doigts, puisse ton ongle suffire éternellement à ce travail. » Le lépreux que vit un jour François ressemblait singulièrement au réprouvé du poète florentin. Hors de lui de souffrance, il frappait et insultait ceux-là même qui tentaient de le soigner. Sa parole était un blasphème perpétuel contre le Christ et la Vierge. Possédé du démon, il goûtait peut-être déjà, selon les vues du temps, les premières atteintes de la damnation quand François s'approche de lui doucement et le bénit. « Dieu te donne la paix. » On conçoit que dans l'enfer où il était plongé, le lépreux n'ait vu dans ses paroles qu'une incompréhension totale de son état, et sa réponse à l'accent d'âpre désespoir que dans ses rencontres avec les âmes perdues de l'autre monde, Dante a si magistralement rendu. « Quelle paix puis-je avoir de Dieu qui m'a enlevé ma paix et mon bien et m'a rendu tout pourri et fétide ?» François lui dit alors de prendre patience. S'il souffre dans son corps, c'est pour le salut de son âme. Exaspéré, le malade répond qu'il ne peut supporter patiemment des souffrances qui ne s'interrompent jamais et se plaint des frères qui le soignent mal. François le quitte un instant pour prier, puis revenant vers le malade, lui déclare qu'il le soignera lui-même. Le lépreux est sceptique. Commence alors l'effarant dialogue. « Que veux-tu faire de mieux que les frères ?»« Je ferai ce que tu voudras. »« Je veux que tu me laves tout entier, car je pue si fortement que je ne peux pas me souffrir moi-même. » Sans attendre, François se fait apporter de l'eau chaude où baignent des herbes odoriférantes et se met à le laver de ses mains. Les croûtes immondes tombent sous ses doigts. La chair reprend sa couleur naturelle. Et le lépreux, qui se voit peu à peu guérir, a conscience de son délabrement spirituel et verse des larmes de repentir. L'âme purifiée retrouve la joie, car de l'âme et du corps, la plus lépreuse des deux, c'était elle. Qu'il soit permis de noter ici que cet épisode si purement évangélique a été placé par certains après la stigmatisation de François, ce qui me paraît peu vraisemblable. Il n'eût pu laver un lépreux avec ses mains blessées qu'il prenait le plus grand soin de dissimuler. Fête de la joie. Deux fois l'an, à la Pentecôte et le 29 septembre, fête de Saint-Michel, François avait résolu de rassembler à la portion culte tous les frères qui ne s'en trouvaient pas trop loin. Cela s'appelait un chapitre, dont l'objet était de ranimer l'esprit de la fraternité et de prendre des décisions sur les régions à évangéliser. Le choix de la Pentecôte rappelait le jour où l'esprit sur la promesse de Jésus à ses disciples était descendu sur eux. Y avait-il dans l'esprit de François un souvenir inconscient de Joachim de Flore et de ses prophéties sur le troisième règne? Comment savoir? Ce qui est sûr, c'est qu'il résolut de fonder des provinces, premier essai d'organisation de la fraternité. Ombrie, Toscane, Marche d'Ancône, Lombardie, Terre de Labour, Apulie, Calabre, chaque province étant placée sous la direction d'un ministre. Des missions seraient envoyées à l'étranger. L'assistance à la messe allait de soi, fervente et profondément attentive. Détail qu'on ne met pas en lumière, mais qui en dit long, François recommandait à ses frères de fixer les yeux sur l'hostie au moment de l'élévation et d'adorer du fond du cœur la présence réelle. Si cet usage était répandu dans la péninsule, François n'eût pas tant insisté pour qu'on s'y conformât. Mais ainsi que nous l'avons déjà indiqué dans les pages sur ses voyages de jeunesse, il s'agissait d'une coutume française en protestation.